Depuis mars, nous sommes en enquête.
On explore, on scanne et on analyse.
En allant sur le terrain.
Non, pas celui-ci.
Attention au requin.
On aurait bien aimé, mais non.
C'est juste à côté.
À deux pas du collège Maurice Leroux.
Voilà, c'est ça. Vous l'entendez ?
Le quartier des gratte-ciels.
Ah oui, vous enregistrez. Bien.
Pour notre activité radio, on aimerait bien vous poser quelques questions.
Let's go.
Oui.
DAQ.
C'est les futurs reporters.
C'est la prise numéro 11.
DAQ.
DAQ.
Découverte et aventure dans ton quartier.
Viens explorer avec nous le quartier des gratte-ciels.
Les trois choses à voir à Villeurbanne.
Il faut se rappeler de ce que c'était Villeurbanne.
DAQ. Découverte, d'aventure et dans ton quartier.
Radio Maurice.
On peut mettre pause normalement.
DAQ.
Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct du collège Maurice Leroux, bienvenue sur Radio Maurice.
Vous êtes actuellement sur notre émission, le DAQ, découverte et aventure dans ton quartier pour arpenter les gratte-ciels au passé, au présent et au futur.
Commençons par les gratte-ciels au présent.
À quoi pensez-vous lorsque l'on évoque le quartier gratte-ciel ?
Le mot gratte-ciel me fait penser aux tours qui grattent le ciel.
Je pense moi qu'il n'y a rien de spécial.
T'es sûr ? Moi, je suis pas d'accord. On va voir ça tout de suite.
Moi, j'adore le parc Chanteur.
Le parc Chanteur ? Très intéressant. Et si on partait à la découverte de ce parc ?
Let's go !
Oh, mince, il n'y a pas d'eau.
Excusez-nous, est-ce que vous auriez 2 minutes pour répondre à un petit questionnaire ?
Let's go.
Oui.
Vous pouvez nous décrire en quelques mots l'endroit où on est.
Nous sommes au parc Chanteur.
Il y a
des trucs
de sport.
Il y a différents lieux.
Venez-vous souvent ici?
Jamais.
Non,
moi, je viens genre une fois par mois.
Jamais.
Ah si, moi j'y vais parce que je passe par là pour aller
en
au collège.
Quand on rentre, on passe par ici.
Ouais, voilà, quand on rentre, on passe par là.
Et qu'est-ce que vous aimez dans le parc en général?
En général,
la musculation.
Travailler mes muscles.
Ouais, il est beau,
courir hein. Un peu, faire de la trottinette sur la pente.
Oh oui, viens, on fait la balançoire.
Non, mais c'est sérieux, là. Non, mais
allez, avance.
Ouais, ça tourne tout seul.
Moi, je veux même pas un aller.
Allez, on va
tenter encore. Lui, au moins lui, il a le style. Hein.
Genre là, c'est une salle de sport en air, mais gratuit, et pour les jeunes et pour les grands aussi. Ça fait pas longtemps qu'on vient, mais on a créé un espèce de marathon, genre entre copains, et bon, on fait un long avec un espèce de chrono, et on fait ça. Un peu de courbature, mais ça va.
Bonjour, je suis en direct du toboggan du parc Chanteur, et je vais le tester aujourd'hui. Je suis pas très confiant parce que là j'ai le micro et je suis dans un toboggan pour les petits et je suis un peu trop grand. Il glisse un peu, mais voilà, c'est marrant quand même.
Bruitage crunch des pas. Bruit de sport humain.
Balle pour chien.
Enregistrement porte.
En parlant du parc Chanteur, je passe devant le matin.
Ah oui ? Et si on découvrait votre chemin à vous, Lémia et Kaïsi ?
6h. 6h20. 6h40. 6h50.
Oh, laisse-moi dormir, frère !
À 7h ?
Je me réveille fatiguée.
Je pars réveiller mes sœurs qui ne veulent pas se lever. Je prépare mon déjeuner avec un mal de ventre horrible.
Bon, 7h10, réveillée. Bravo, ouais, je suis réveillée. T'as gagné tête de fesse de réveil. Je suis en retard. Ouais, super. Bon, je vais vite me préparer.
À 7h30, je descends les escaliers de 3 étages pour prendre le métro à Busan. Qui met entre 2 ou 3 minutes à arriver.
7h45. Vite, faut que j'y aille.
Quand je sors à gratte-ciel, je passe devant un cirque. Avec beaucoup d'animaux qui sentent assez fort. Et enfin, je me retrouve devant le collège avec mes amis. En attendant que le portail s'ouvre, on parle de tout et de rien.
7h50. Il veut quoi, lui ? Il me regarde bizarrement. 7h55. Arrivé au collège, épuisé.
Eh bien moi, vous savez quoi ? Sur mon chemin, je passe devant un drôle de bâtiment rose.
Ah, j'y étais ce matin. C'est là où est placée l'équipe Capital Culture pour cette année. J'ai même interviewé Simon Meillet, le responsable de ce projet, avec Clément.
Et si on écoutait cette interview ?
La jeunesse, c'est le thème du Capital Française de la Culture. Pour quelle raison et dans quel but ?
Alors, pour quelle raison ? Tout simplement parce que sur Villeurbanne, il y a plus de 50% de la population qui est constituée en fait de jeunes qui ont moins de 30 ans, donc vous en faites partie, forcément. Et lorsque la ville a décidé de candidater auprès du ministère de la Culture pour Capital Français de la Culture, on s'est dit que finalement, il fallait aussi associer cette jeunesse dans la culture et proposer qu'ils participent activement à la programmation des 800 événements qui sont à l'affiche de Capital Français de la Culture. Et donc notre slogan, c'est « Place aux jeunes ». Et c'est d'ailleurs ce qui a conquis le jury du Capital Français de la Culture, parce qu'ils ont trouvé le projet à la fois très ambitieux, très novateur, et c'est pour ça que on est sorti premier parmi les 29 autres villes qui avaient candidaté à ce label.
Nous avons vu que Capital Culture accueille plus de 800 événements culturels en 365 jours. Comment gérez-vous ça ?
Comment on gère ça ? Alors, ce qu'il faut vous dire, c'est que dans les 800 événements, beaucoup sont portés, bien sûr, par les partenaires. En fait, aujourd'hui, on a 160 partenaires. Un partenaire, c'est quelqu'un qui propose un événement. Complexe Infernaum, le TNP, l'École Nationale de Musique, le CCO. Alors, je ne vais pas vous faire toute la liste des 160 partenaires, mais il y a aussi des partenaires, par exemple, qui sont en dehors de Villeurbanne. Je pense au Musée des Confluences, par exemple. Je pense à l'Institut du Monde Arabe. Donc, ces partenaires, ce sont eux qui proposent toute une série d'événements. Donc ça fait une grosse partie des 800 événements. Et puis il y a des événements qui sont organisés par la ville. Et donc à la fois pour les partenaires qui organisent les événements, nous on est là pour les coordonner, travailler avec eux, les aider. Et puis on fait nos propres événements. Et là c'est nous qui sommes producteurs de l'événement, c'est-à-dire que c'est nous qui l'organisons de A à Z.
Quel message est essentiel pour la jeunesse selon vous ?
Alors pour moi, le message essentiel à la jeunesse, c'est de se dire que la culture aujourd'hui, elle est fondamentale parce que c'est ce qui relie les hommes et les femmes dans notre société. On a besoin de la culture pour vivre ensemble et ça depuis la nuit des temps. Alors de cultures diverses, il y a beaucoup de cultures et donc nous, on a souhaité que toutes ces cultures, elles puissent s'exprimer et à nouveau que la jeunesse, elle puisse prendre part, je dirais, à la création de ces événements.
Si nous avions un événement à ne pas rater, lequel serait-il ?
Ah là là, alors ça c'est toujours la question piège. On me la pose tout le temps et c'est terrible parce que pour répondre, ça veut dire qu'il faut que je fasse un choix, vous l'avez compris, sur 800 événements. Alors je vais m'attirer les foudres de tous ceux que je n'aurais pas choisi forcément, mais ils m'en voudront, j'espère pas. Je suis obligé de dire deux événements, j'ai pas le choix, je peux pas. Alors le premier, c'est un événement qui va avoir lieu dans 15 jours. C'est le Festival Réel, c'est un festival entièrement gratuit qui aura lieu du 3 au 5 juin au Parc de la Fécine. Et qui a été complètement organisé par justement la jeunesse. C'est-à-dire que ce sont 115 jeunes qui sont issus de tous les quartiers qui ont fait cette programmation. Donc ils ont choisi de faire venir Roméo Elvis, PLK, Eddy de Préto, etc. etc. Donc ça c'est un bel événement parce que justement on leur a donné les clés, quelque part, les clés du camion, hein, c'est une expression, pour qu'ils fassent cette programmation. Donc ça c'est le premier événement. Puis le deuxième, qui est aussi un incontournable, c'est ce qui va se passer en septembre avec l'accueil d'une très grande compagnie de théâtre de rue qui s'appelle Royal Deluxe et qui va venir nous faire un spectacle complètement déjanté du 23 au 25 septembre, avec des personnages démesurés qu'on appelle les géants de Royal Le Luxe et qui vont arpenter les rues de Villeurbanne pendant ces 3 jours. Pas très très loin de Maurice Leroux, mais je ne peux pas vous en dire beaucoup plus sur ce spectacle parce que c'est une création mondiale, donc c'est quelque chose qui est nouveau. Et puis le metteur en scène, Jean-Luc Courcoul, veut vraiment garder le secret jusqu'au dernier moment. Donc là, je vous donne vraiment rendez-vous le 23 au matin. On se souviendra tous de ce spectacle.
Merci, ça sera tout pour les questions. C'était un plaisir de parler avec vous et au revoir.
Merci de nous avoir accueillis dans les locaux.
Merci à tous. Au plaisir de vous revoir bientôt.
C'était l'interview avec Simon Meyer. Maintenant, nous allons nous ancrer dans le passé des gratte-ciels.
Mais par quoi commencer ?
Moi, j'ai une idée. Le parc de la cheminée à côté de notre collège. L'occasion de découvrir le passé industriel de notre ville.
Pour vous, il y a quoi à l'intérieur de cette cheminée ?
Il n'y a rien.
À l'intérieur ? Il y a du vide, certainement.
C'est juste une tour, c'est juste une cheminée.
Est-ce que vous savez qui était Geneviève Antonise de Gaulle ?
Non.
Oui. C'est une... Je ne sais plus, en fait. Je sais plus.
C'est le nom du parc, hein, c'est ça ? Écoutez, je ne sais pas.
Oui, il y a un panneau par là ou quelque chose comme ça.
Non, non, non. Et vous savez ?
C'est la nièce du général de Gaulle.
Ah voilà, oui, je me doutais qu'elle pouvait être que de la famille de Gaulle.
Elle était résistante aussi. Comment c'était avant ici ?
Comment c'était là ? Je peux pas te le dire, ma grande. Bon, ça fait que 20 ans que je suis à Villeurbanne. Et ça remonte à plus vieux. Hein. Alors tu sais.
C'était pas tout doux comme ça. Vraiment pas.
Il n'y avait pas tous ces immeubles. Hein. Là, ici, c'était un quartier avec des petites maisons.
Mais avant, il y avait des usines, il y avait les gens qui venaient travailler.
C'était une usine qui fabriquait quoi ici ?
Ah, bonne question.
Avant, je crois que c'était une usine de teinturerie.
Vous rêvez d'une vie en couleur ?
Oh oui !
Oh, oui, oui.
Teinturerie Boissier, la teinturerie de toutes vos envies.
Toutes vos envies ?
De notoriété mondiale, 100% produits chimiques.
Vive les vêtements chics ! Appelez le 741. Appel surtaxé, 10 francs la minute plus prix de l'appel.
Teinturerie Boissier, teinturerie Boissier, teinturerie Boissier, teinturerie Boissier.
Pour vous, est-ce que c'est important de garder cette cheminée ici,
ah oui,
ou alors il faudra la détruire ?
Non, surtout pas. Hein.
Oui, c'est bien de garder des vestiges. Ça raconte l'histoire de Villeurbanne, ça fait partie du patrimoine, on va dire. Voilà, oui. C'est bien d'avoir des repères aussi. Et pas tout démolir, faire du neuf, tant qu'il raconte rien, quoi. Bon, faut pas tout garder non plus, parce que c'était pas bien joli, hein, dans le temps. Hein. C'était moche, les usines. Hein. ça polluait, ça faisait tout ce qu'on voulait. Et puis... Mais ce qu'il y avait de bien, c'est que tout le monde, il y a beaucoup de gens qui travaillaient, et ils habitaient sur place, tu comprends. C'était plus une autre vie, quoi.
Il faut se rappeler de ce que c'était, Villeurbanne.
C'est le monde ouvrier, il n'y a pas si longtemps que ça. C'est nos grands-parents, qu'on va dire.
C'était il n'y a pas si longtemps que ça, le temps des usines. De 1830 à 1870, l'activité économique change et le nombre d'usines augmente. C'est la révolution industrielle. Pour mieux comprendre cette période, Joseph, un enfant travaillant dans une usine malgré son jeune âge, raconte son enfance au travail. 12 avril 1868.
Aujourd'hui, c'est dimanche. Après la messe du matin, j'ai couru jusqu'à la colline qui domine toute la ville. Je reste là pendant des heures, à lire, écrire, parfois, et à regarder la ville. Elle est belle, ses rues éclairées au gaz, ses avenues plantées d'arbres. Et puis il y a toujours des maisons en construction et ça change tout le temps. Ici, 10 000 ouvriers travaillent à l'usine.
1er juillet 1869.
Quelle journée ! Levé à 5 heures du matin, je suis partie avec père pour l'usine. Il y avait un atelier où on l'a emmené sous la surveillance de 2 contremaîtres. L'un d'eux a vérifié mon âge car l'usine n'embauche qu'à partir de 12 ans.
5 juillet 1869.
Brognon, le contremaître, surveille notre tâche. Il dispose un morceau de métal sur une machine qui tourne très vite et façonne un boulon. Je comprends maintenant ce qu'est mon métier. Je suis tourneur. Avec un peu d'exercice, on peut fabriquer jusqu'à 200 boulons en 10 heures de travail.
On ne risque pas de manquer d'ouvrage avec toutes ces machines ici. Le salaire des apprentis est de 2 francs la journée, 0,3 centimes d'euros. Je suis content de ramener cet argent à la maison.
1er août 1869.
Je comprends mieux pourquoi Père est si fatigué quand il rentre à la maison. Une semaine après mon entrée à l'atelier, Brognon m'a félicité. Tu apprends vite, petit.
Même plus tard, en 1936, les temps sont durs pour les ouvriers et les ouvrières. Arrive au pouvoir le Front Populaire, un parti politique qui permet d'améliorer un peu des conditions de travail. Il y a beaucoup de grèves, les salaires sont très bas, de plus, les congés ne sont pas payés.
Je m'appelle René Picon, 30 ans. Nous touchons enfin nos chèques pour les congés payés. Mon patron ne voulait pas les payer, il a fallu que je traîne devant le prud'homme, mais j'ai gagné. Je suis salariée chez Morissette, une petite entreprise de lingerie. Je suis déléguée du personnel et secrétaire syndicale CGT de la bonneterie, c'est-à-dire industrie de vêtements en tissu à maille, de Villeurbanne. En mai dernier, je suis allée à une réunion syndicat à la bourse de travail. On nous a dit « il faut débrayer ». De retour à l'usine, j'emmenais aussitôt dans la grève les 28 femmes et les quelques hommes de mon atelier. Le 11 mai, nous démarrions l'occupation des locaux. On mange et on dort sur place, du moins celles qui, comme moi, n'ont pas d'enfants. Mon mari n'a pas fait la grève. Il continuait à fabriquer des chaussures. Chez Bali, où il travaille, ils ont déjà obtenu leur congé payé. C'est donc lui qui m'apportait mes repas que ma mère préparait. Je me souviens, il me les passait à travers les grilles, comme en prison. Le soir, on dansait, parfois. J'avais apporté mon petit poste radio. On rigolait bien. La nuit du 7 au 8 juin, les accords de Matignon sont signés. Ils vont nous permettre d'avoir la semaine de 40 heures, le congé payé, la liberté syndicale. C'est moi ensuite qui ai signé les accords d'entreprise et du secteur. Les augmentations salariales sont appliquées. De 2 francs de l'heure, on est passé à 3,80 francs dans tout l'atelier. Quelle différence !
Au-delà des conditions difficiles des ouvriers, les femmes n'ont pas vraiment leur place.
Je m'appelle Germaine Berlioz, j'ai 27 ans. J'habite à Villeurbanne. Nous sommes le 12 juin 1936, je ne travaille pas. Je suis mariée depuis 7 ans et je m'occupe de mon fils. Mais en 35, j'ai été élue sur la liste du maire Camille Joly comme conseillère municipale privée. C'est l'appellation officielle parce que nous, les femmes, n'ont pas le droit de voter et encore moins le droit de se faire élire. À la mairie, nous sommes seulement 4 femmes. D'ailleurs, pendant le conseil municipal, nous n'avons même pas le droit d'intervenir sous peine de faire annuler la séance par le préfet. Heureusement qu'à la fin de la réunion publique, nous pouvons nous exprimer sur tous les dossiers de la vie municipale. Camille Joly nous emmène souvent aussi dans des manifestations publiques pour nous faire connaître. Je me souviens qu'une fois, c'était en pleine rue près du parc, un monsieur m'a interpellée pendant que je préparais mon intervention. Il a dit « Allez donc raccommoder vos chaussettes ». Heureusement que tous les hommes ne méprisent pas les femmes. La preuve, il a bien fallu que certains votent pour défendre nos conditions et nos voix, puisque les femmes ne votent pas.
Super intéressant. Et si on allait explorer dans le présent cette fameuse cheminée ?
Bonjour, nous allons vous guider dans la cheminée. Alors pour entrer, il y a soit à votre gauche, soit à votre droite des escaliers que nous allons emprunter.
Ça fait du bruit.
Et on voit les gratte-ciels, hein.
Ah ouais. Ici on a une jolie vue sur des arbres bien fleuris.
Ah oui, j'avais pas vu, tiens.
J'ai failli me faire raser le crâne par un pigeon.
Je vois juste un petit trou de lumière.
C'est moche, wow, et ça pue.
Voilà. Il y a un trou en haut et il y a une petite aération là où je suis.
Et je vois une échelle pour monter jusque tout là-haut. C'est la première fois que je remarque ça.
J plus M.
M égale que.
Il y a des tags comme quoi il y aurait des amoureux.
Des
amoureux.
C'est...
Mina et Nana. Ah non, ça c'est Love Friend.
Ah ouais. Radio Maurice. Ils nous connaissent pas. Non, 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 non. nous connaissent pas. Non, 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 non. Aujourd'hui, ils nous parlent d'identité nationale, d'Europe, etc. Pendant que la jeunesse ne sait plus où elle va. Non, 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 non.
D'Ac Gratiel, on s'émerveille.
À Villeurbanne, il y a aussi de nouvelles architectures qui dessinent une ville beaucoup plus moderne. Connais-tu Agnès Varda ? C'est le nom donné à la place devant le nouveau lycée Brosselette. Et c'est aussi le nom du prochain sujet.
Agnès Varda est une cinéaste née le 30 mai 1928. Son véritable nom est Arlette Varda. Elle grandit à Sète avec ses quatre frères et sœurs, puis elle fuit Sète avec sa famille à cause de la Seconde Guerre mondiale et se réfugie à Paris. Elle en profite pour étudier la photographie.
En 1949, elle accompagne le metteur en scène Jean Villard et photographie la troupe du Théâtre National Populaire, TNP, dont elle devient la photographe officielle. Elle réalise son premier film en 1954 à 26 ans. Ce film s'appelle « La pointe courte » et est filmé à Sète avec deux comédiens du TNP.
En 1961, elle scelle son destin de cinéaste en tournant « Cléo de 5 à 7 » qui remporte un franc succès. À partir de ce moment-là, elle part souvent à Los Angeles pour y tourner des documentaires. À la mort de son compagnon Jacques Demy, elle tourne un film hommage nommé « Jaco de Nantes ».
Elle remporte de nombreux prix comme le Lion d'Or en 1985, le César du meilleur film documentaire, un Oscar d'honneur et d'autres prix encore.
C'est aussi la première femme réalisatrice à recevoir une telle reconnaissance de l'histoire mondiale du cinéma.
Elle décède le 29 mars 2019 à l'âge de 90 ans. C'est une femme qui fut très importante dans le monde du cinéma. C'est donc pour cela que de nombreux lieux ont été nommés à son nom, comme l'esplanade Agnès Varda à Villeurbanne.
Sacré puzzle, hein ? J'ai l'impression que j'ai vécu longtemps.
C'est vous, Agnès, qui parlez ? Mais qu'est-ce qui vous a poussé à devenir cinéaste ?
La curiosité, c'est franchement la vie d'être curieux. C'est-à-dire que c'est intéressant d'être curieux. Parce que d'abord, on a des réponses à la curiosité. Pas forcément les gens qui le disent, mais des choses qu'on observe. Si on a un humour de curiosité, on remarque des choses dans la vie qui sont un petit peu amusantes, qui font que la vie est un peu poivrée, simplement si on l'observe.
Inspirant.
Vous passez souvent par ici ?
Oui, vu que c'est mon lycée.
Oui, on étudie ici, au lycée Pierre Brossolette.
Tous les jours, on est là.
Oui, j'habite là.
Et que pensez-vous de la nouvelle esplanade ?
Ça va, c'est... ça va.
Je pense qu'elle a été bien faite. Hein.
Un peu les murs trop gros, parce qu'il n'y a pas de réseau dedans.
Trop épais.
Trop épais, les murs.
Bah, c'est plus propre, ça donne plus envie de se promener ici.
C'est une place agréable, y a de la végétation. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de bancs. Par exemple, on ne peut pas trop s'asseoir.
Vous préfériez avant ou maintenant ?
Maintenant, quand même.
Ah ouais, largement.
Pour quelle raison ?
Parce que ouais, c'est plus joli. Avant, c'était pas très, très beau, quoi. Il n'y avait rien, en fait. C'était pas vraiment...
vide.
Ouais, c'était vide. Ça donnait pas envie de passer par là, quoi.
Avant, c'était...
c'était vieux. Ouais, c'était vieux. Ouais, ça a été rénové, c'est plus neuf.
Ce que je vois ici, parce que nous sommes un peu, on est récent qu'on est habité ici, c'est pas très longtemps, ça fait même pas un an. J'aimerais bien ce quartier-là, plutôt les villes urbaines en général, plutôt le commerce, les écoles qui est à côté.
Pouvez-vous nous dire quelles seront les prochaines transformations de la place ?
Aucune idée.
Je pense qu'il y aura des bâtiments.
Ouais, sûrement peut-être.
Des réurbanisations.
Peut-être ça va agrandir la place là-bas.
Ouais, peut-être
ils vont casser le lycée déjà, celui-là, l'ancien.
Ouais, ça c'est sûr.
Je sais qu'il y aura des nouveaux magasins, des apparts étudiants, nouveaux restos aussi. C'est tout ce que je sais pour l'instant.
C'est un peu dur parce que nous aimerons bien qu'il ne sera pas trop de cambrement.
Et par exemple là devant, vous aimeriez que ça soit quoi à la place de l'ancien lycée ?
Une salle de sport.
Un petit terrain de foot en ville.
Franchement, qui compte. Qui finissent avec des magasins, un cinéma,
je prends n'importe quoi.
Du commercial.
Ouais, du commercial, ouais.
D'accord.
C'est ça qui attire maintenant. Donc.
Savez-vous qui est Agnès Varda ?
C'est le nom de la personne.
Hein ? Pas du tout.
Non, pas du tout.
Bah, je peux vous dire si vous voulez. Agnès Varda, c'est une cinéaste et féministe. Et du coup, bah, son prénom a été donné à cette place.
Après avoir remonté le temps, si nous partions en voyage vers le futur, enfin un futur proche, il s'agit de découvrir ce qu'est la ZAC gratte-ciel.
ZAC, zombie, abandonné, cancérigène.
Zebra cravate.
Ou zoo attractif pour les chameaux.
Mais non, rien de tout ça.
Une zone d'aménagement concertée, la ZAC. Ou plus simplement, c'est une zone à construire.
Elle est en projet depuis 2011.
En 2016, les premières démolitions ont eu lieu.
Puis plus tard, les premiers logements, puis l'école Rosa Parks, le complexe sportif Alexandra David-Néel, et enfin, en 2022, le nouveau lycée Pierre Brossolette. Oh là là, vivement 2030, on aura des crèches, des commerces.
Un cinéma et un pôle jeunesse. Pendant le micro-trottoir, nous sommes tombés par hasard sur l'un des chefs de projet de la ZAC. On en a profité pour lui poser des questions.
Donc je m'appelle Simon Rouet et je suis le chef de projet de la maîtrise d'œuvre de T6 Nord. Le T6 Nord, déjà, je vais vous présenter en deux, trois mots. Le projet, c'est une opération de tramway sur 5,4 km qui va relier les hôpitaux Est à la place Grand Clément au centre-ville de Gratte-Ciel, qui va passer sur l'esplanade Geneviève de Gaulle pour relier ensuite le campus de Ladoix. Aujourd'hui, donc, on est en phase d'études et l'objectif, c'est de mettre en service cette nouvelle ligne de tramway à l'horizon de mars 2026. Et donc nous, aujourd'hui, on est un groupement d'entreprises, donc la société Aegis et la société Gauthier Conquet, un architecte. On a un contrat avec le Citral, qui est la maîtrise d'ouvrage de ce projet-là. Le Citral, c'est une entité publique qui vise à réaliser des projets de transport sur l'agglomération lyonnaise. Il y a également un deuxième projet qui est la ZAC, ce qu'on appelle la ZAC gratte-ciel, donc c'est là où on se situe, c'est l'aménagement de l'ensemble du quartier entre le cours Émile Zola et la rue Pressensé.
L'immeuble de logement.
Avec la construction. Et après, il y a également le passage à la piétonnisation de la rue Henri Barbusse, qui est, elle, pilotée par la ville de Villeurbanne. L'objectif, c'est d'apaiser le quartier en faisant plus de place aux piétons, aux cycles, et pour retrouver une ambiance un peu plus apaisée pour l'ensemble des piétons.
D'accord, merci voilà. Beaucoup, au revoir.
Tous ces projets nous ont vendu beaucoup de rêves. Et toi, à quoi rêves-tu ?
Plus d'habitations, toit végétal, panneaux solaires,
beaucoup de stations de vélo,
pas de pollution,
des jardins partagés,
pas de pauvres,
une ville apaisée,
joyeuse et engagée,
une ville sans colère,
bien organisée
et facile.
Alors, tu penses toujours que le quartier des Gratte-Ciel n'a rien de spécial ?
Non, en vrai, c'est un quartier super, il est exceptionnel, il y a plein de choses trop bien. Donc vraiment, je l'adore.
Merci à vous, chères auditrices et auditeurs, de nous avoir suivis sur Radio Maurice. Merci de votre écoute attentive.
Cette émission a été présentée par Paul, César, Kessie, Lémia, Soren, Eve, Laura, Rim et Clément. Supervisé par Madame Arnaud et Monsieur Cohen, et un grand remerciement à Charlotte, notre coach.
Radio Maurice. Radio Maurice.
Ah oui, vous enregistrez. Bien.
Pour notre activité radio, on aimerait bien vous poser quelques questions.
Let's go.
Oui.
DAQ.
C'est les futurs reporters.
C'est la prise numéro 11.
DAQ. Découverte et aventure dans ton quartier.
Viens explorer avec nous le quartier des gratte-ciel.
Les trois choses d'abord à Villeurbanne.
Il faut se rappeler de ce que c'était Villeurbanne.
DAQ. Découverte, aventure et dans ton quartier.
Allez, faut mettre pause normalement.
D. A. Q.